1, 2, 3.
C'est ce qu'il m'a dit, alors j'espère que ça va marcher. Ok, donc on va... Ce soir, on parle de l'intercession. Ah. Ok. Et après, on aura un petit temps de louange parce qu'on va le réduire un peu. Et on va pratiquer de l'intercession. Voilà, je vous ferai faire deux exercices particuliers. Donc l'intercession, ben, on pourrait dire beaucoup de choses parce qu'il y a des dizaines, des centaines de livres qui ont été écrits sur l'intercession. Et je ne vais pas vous dire tout. Et voilà, peut-être que vous penserez, bah ben, oui, mais bon, l'intercession, c'est ça. Je ne peux pas tout vous dire. Donc je voulais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Finalement, le terme d'intercession ou d'intercéder, le verbe intercéder, on ne le trouve pas beaucoup dans la Bible. Je ne vais pas vous donner des chiffres, mais ce n'est pas intéressant. Mais on trouve des intercesseurs. Donc, voilà, il y a des grands intercesseurs dans la Bible, et d'ailleurs je vous poserai une question dans quelques secondes. Juste, je vous lis deux passages dans Jérémie 37, 3, le roi Sédécias qui envoie vers Jérémie des gens pour lui dire « Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, notre Dieu ». Et puis dans Exode 8, c'est Pharaon qui demande à ce qu'on intercède pour lui. Pharaon appelle à Moïse et Aaron et leur dit « Intercédez, fléchissez l'Éternel par vos prières afin qu'il retire les grenouilles de dessus moi », etc. Voilà, donc l'intercession, c'est biblique, on le trouve de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc on va prendre des exemples bibliques. Alors est-ce que vous pouvez me citer au moins trois intercesseurs connu. Plus fort. Bah, du pot tout d'un coup. Hein. Bon, comment? Oui, peut-être, mais bon, c'est pas les plus connus. Moïse, alors. Abraham, Moïse, Daniel, Job, intercesseur, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment l'intercesseur. Non, c'est pas... David était plutôt un adorateur qu'un intercesseur. Néhémie. Oui, il y a les prophètes aussi, bien sûr. Néhémie, Esdras. Oui, tout ça, c'est bon. Donc, les principaux, je dirais, les plus, enfin, ceux dont on va parler ce soir plus précisément, c'est Abraham, Moïse. Il y a Néhémie. Et puis, il y en a un qui est quand même très connu. Non. Jésus. Donc, Abraham, je vous lis les textes bibliques, hein, il y aura beaucoup de textes bibliques. Dans Genèse 23, 18, si vous voulez noter, non, plutôt 18, 23, Abraham s'approcha et dit, supprimera. Vous vous rappelez avec Abraham, c'est quand Dieu vient et puis il se présente et il dit, je vais détruire la ville de Sodome et Gomorre parce qu'il y a trop de péchés. Et Abraham commence à faire une intercession qui dure. Il commence par dire, quand même, s'il y a 50 justes, tu ne vas pas détruire la ville. D'accord, je ne détruirai pas. S'il y en a 45, ok, enfin bref, il arrive jusqu'à 10 comme ça. Donc il dit à Dieu, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville? Les supprimeras-tu aussi? Et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? C'est beau, je trouve, l'intercession d'Abraham. Ensuite, il y a Moïse. Donc, Moïse, vous connaissez, il y a eu plusieurs intercessions de Moïse, mais celle-là, c'est avec le veau d'or. Dieu dit qu'il va détruire ce peuple. Il en a marre de ce peuple. Et puis, Moïse implore l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi l'Éternel ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, celui qui tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Encore une intercession qui est très forte. Alors c'est dans Exode 32. Et puis Daniel, aussi un intercesseur aussi fidèle. Seigneur, en conformité avec tes actes de justice, que ta colère et ta fureur s'écartent de la ville. Et plus loin, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et fais briller ton visage au-dessus de ton sanctuaire dévasté pour l'amour du Seigneur. On a entendu Néhémie. Néhémie, vous pouvez lire tout le livre. Au chapitre 1, il intercède dans les pleurs et le jeûne en faveur des Israélites et confesse leurs péchés. Souviens-toi de ce que tu as dit à Moïse. Il lui rappelle les promesses. Alors Esdras, lui, il déchire ses vêtements et s'arrache les cheveux et la barbe. Donc on a Jésus, bien sûr, et le Saint-Esprit qui intercède pour nous dans Hébreux 7, 23. C'est pourquoi aussi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder pour eux. Dans Romains 8, 27, 26, 27 et 34. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il y avait aussi un homme dont on parle qu'il priait beaucoup. Paul aussi, bien sûr, mais c'est Épaphras qui ne cesse de combattre pour vous, dit Paul. Voilà quelques exemples bibliques de... Il y en a d'autres, bien sûr, puisqu'il y en a d'autres qui ont été cités, mais on ne va pas tous les voir, sinon on y passera la soirée. Alors c'est quoi l'intercession? On va commencer par la personne de l'intercesseur. Quelles sont les qualités d'un intercesseur? Alors tout à fait adapté pour l'intercession, je vais citer quelques qualités que vous trouverez dans 1 Chronique 12, 24 à 41. Ce sont les combattants qui sont venus rejoindre David pour se rallier à David pour le loindre roi. Alors, qui étaient ces gens? C'étaient des vaillants héros. Ils étaient fidèles, avec un cœur résolu. Ils étaient équipés de toutes les armes. C'étaient des gens de renom, en état d'aller au combat, en ordre de combat. Ils avaient un cœur sincère, sans partage. Et certains avaient le discernement des esprits, comme la tribu d'Issacar. On pourrait y ajouter des qualités qu'on trouve dans le Nouveau Testament, par exemple dans les Actes, quand avec les apôtres, ils choisissent des diacres. Il fallait que les gens soient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Voilà, bien d'autres choses. Alors être intercesseur, c'est se tenir sur la brèche, c'est-à-dire être éveillé. Et Dieu cherche ce genre d'hommes et de femmes. Dans Ézéchiel 22, 30, Dieu dit « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. » Ésaïe 59, 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Un autre passage dans Ésaïe 63, 5, j'ai regardé partout, personne pour m'aider. C'est drôle d'entendre Dieu qui dit personne pour m'aider. Je me suis étonnée, n'y a-t-il donc personne pour me prêter main forte? Mais mon bras m'a sauvé et mon indignation a été mon soutien. Dieu a besoin de nous. Ces textes nous le prouvent bien, Dieu a besoin des hommes. On y reviendra après. Alors c'est aussi un appel précis pour certains. On est tous appelés à intercéder, mais certains peuvent avoir un appel particulier. Dans Ézéchiel, par exemple, Dieu lui dit, « Toi, homme, je te nomme guetteur ou sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » C'est prophétique, tu entends et tu dis, tu proclames les choses que tu entends. Ézéchiel 33, 7 et 3, 17, c'est le même appel. Habacuc nous dit aussi, « Je vais me placer à mon poste de garde, je vais me tenir sur le rempart, je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. » Habacuc était donc un guetteur et une sentinelle. L'intercesseur a aussi un rôle de guetteur et de sentinelle. Il est aussi prophète pour annoncer les paroles du Seigneur. Et selon le texte d'Ésaïe et des dieux, être les instruments pour accomplir ses décrets, c'est une responsabilité que nous avons. En 1992, j'avais été interpellée par ces versets et j'avais commencé donc un groupe d'intercession pour l'Église. On ne priait pas pour les personnes, on priait, on était vraiment des veilleurs, des sentinelles pour l'Église, pour voir arriver le danger, pour prier pour des circonstances un peu plus compliquées, pour prier pour un tas de choses. Prier pour prévenir les divisions, et c'est vrai que pendant toutes ces années, on n'en a pas eu. Et comme on lisait tout à l'heure concernant les combattants de David, on était unis, avec un même cœur. On mettait de côté la critique, on était fidèles, même si on a passé quelques orages. C'est pas toujours facile, je dirais. L'intercession, c'est pas quelque chose qui coule de source. Un autre témoignage personnel. J'ai toujours aimé les tours. J'ai toujours aimé les tours, les châteaux avec des tours. Quand je voyais une tour, quand on se promenait, qu'on voyait des tours, oh, je m'arrêtais. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais aimé habiter dans une tour, finalement. Et mes filles me disaient, mais maman, habiter dans une tour, il n'y a pas des meubles ronds, on peut pas mettre de meubles, quoi. Ça va, c'est pas pratique. C'était amusant. Et même à un moment donné, vers 2009-2010, par là, avec Bernard, on faisait le tour dans la région et on essayait de trouver un moulin à restaurer, un truc comme ça, quoi. Hein, c'est les moulins Ferrand. Mais bon, c'était trop lourd. Je me disais, peut-être qu'on pourrait faire une maison de prière comme ça, dans une tour. Ouais, ça serait bien. Mais bon, en général, c'était toujours trop loin d'Angers, donc ça n'allait pas. Mais jusqu'au jour où le Seigneur m'a fait comprendre que c'était spirituel, le fait de vouloir, d'aimer les tours. J'étais une sentinelle et je devais me tenir sur la tour en esprit. Ce n'était pas la peine d'avoir une tour en briques. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui nous titillent quand on est dans l'intercession. Alors on va aller un peu plus profondément dans la personnalité de l'intercesseur. Excusez-moi, il faut que je boive un peu parce que j'ai la gorge sèche. Donc on va aller plus profondément dans la personnalité de l'intercesseur. On revient sur l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Faire mourir le juste avec le méchant, cela ne correspond pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ? Abraham dit, voici, j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Que le Seigneur ne s'irrite pas et je ne parlerai plus que cette fois. Il part de 50, puis il arrive à 10. Bien sûr, vous savez comme moi qu'il n'y en avait même pas 10. Donc Abraham connaît Dieu. Il sait que Dieu est juste. Il fait preuve de hardiesse et en même temps d'humilité. Abraham avait de la compassion pour les gens de Sodome et Gomorrhe. Seigneur, tu ne vas pas détruire le juste avec le méchant. Celle de Moïse avec le veau d'or. Pardonne, sinon efface mon nom. Pourtant, ce peuple lui en faisait voir de toutes les couleurs. Hein, si vous lisez dans les premiers livres de la Bible, le peuple après dans le désert, waouh, ça râlait souvent. Hein. Et des fois, Moïse, ça l'énervait. Hein. Mais il dit, c'est pas possible, tu peux pas faire sortir ce peuple et d'Égypte et ensuite le détruire. Ça c'est pas logique. Dans le psaume 106, 23, il est dit, Dieu parlait de les exterminer, mais Moïse, celui qu'il avait choisi, s'est tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Moïse aimait ce peuple rebelle. Moïse aimait le peuple hébreu. De toute façon, il était venu pour être à la tête de ce peuple, même si des fois il était un petit peu... Il avait hésité, mais c'était son appel. Donc Moïse aimait ce peuple rebelle. Daniel, lui, il s'attache au fait que Dieu est amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par amour pour toi, Seigneur, par égard pour toi-même, pour l'amour du Seigneur, selon les versions. Écoute la prière et les supplications. C'était des hommes profondément attachés à Dieu. Jésus aussi a pleuré sur Jérusalem. Il y avait dans l'intercession de ces hommes beaucoup d'amour et de passion. Qu'est-ce qui m'anime quand j'intercède? La colère, parce que pour la situation, l'agacement. Je dois aimer Dieu et ce pourquoi j'intercède. Je dois aimer Dieu et ce pourquoi j'intercède. Intercéder sans amour n'a aucune efficacité. Il faut s'identifier au sujet de notre intercession. J'étais étonnée parce que vous savez qu'il y a la prière pour la France pendant 3 semaines. Là. Et ce midi, alors que j'étais presque en train d'imprimer mes feuilles, je reçois les sujets de prière pour la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je lis? Celui qui aime la France. Qui peut prier? Celui qui aime la France. Car la prière efficace est alignée avec le cœur de Dieu, lent à la colère et riche en bonté. C'est aussi vrai en priant pour quelqu'un. Dieu est amour et honore l'amour. Celui qui n'aime pas la France, mais qui a plutôt des paroles critiques et des appels au jugement. Seigneur, un peu comme les apôtres, vous savez, Seigneur, fais que le feu du ciel descende sur, sur ce peuple, sur cette ville. Alors celui qui pense comme ça peut toujours se repentir de l'esprit qui l'anime, parce que Jésus les a réprimandés. Et demander à Dieu de lui donner de l'amour pour la terre où il l'a placée et pour ses habitants. Donc j'ai trouvé ça un petit peu marrant de voir que ça confirmait ce que je disais, ce que j'avais écrit. Intercéder sans amour, que ce soit pour le pays, pour la ville, pour des personnes, n'a aucune efficacité. Il faut s'identifier au sujet de notre intercession. Si je prie pour ma ville, je dois l'aimer. Si je prie pour les chrétiens persécutés, je dois les aimer. C'est peut-être un peu plus facile des fois de prier, d'aimer les chrétiens persécutés que notre ville ou notre pays. Si je prie pour Israël, je dois l'aimer. Tout ça malgré les défauts, malgré leurs péchés, malgré les fautes, malgré tout ce qui se passe et qui ne nous plaît pas. On doit aimer, sinon ce n'est pas la peine de prier. Il y a un groupe de chrétiens qui s'appelle les Veilleurs. Et je lisais sur leur site ceci. La prière d'intercession fait de nous des êtres de proximité avec Dieu, mais aussi avec les humains du monde entier. Être solidaire des souffrances de l'humanité. Elle nous fait coopérer au projet de Dieu. Donc l'intercesseur doit être proche de Dieu, le connaître profondément, être intime, savoir écouter, ressentir ses sentiments, connaître sa parole pour s'en servir. L'intercesseur se place entre le sujet et Dieu. Et l'intercesseur laisse Dieu transformer sa façon de prier pour les gens. Il les voit avec le regard de Dieu. Il voit la ville, le pays, avec le regard de Dieu. Nous devons nous aligner dans toutes nos prières avec le cœur de Dieu. Je vais vous raconter encore un petit témoignage. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent, mais d'autres pas. Il y a quelques années, on avait été invité au petit temple réformé. Je crois que c'était pour l'inauguration, parce qu'il y avait eu des travaux qui avaient été faits, enfin, tout ça. Alors, il y avait le maire, le préfet, l'évêque, enfin bref, toutes les grosses têtes, et le pasteur de l'Épine, que j'accompagnais. Donc, on était placés sur les premiers rangs, enfin, on était au deuxième rang. Et puis, on attendait de commencer. Puis, d'un seul coup, qui je vois arriver ? Notre chère députée, Roselyne Bachelot. Et quand je l'ai vue, mon cœur a fait... Bon, c'est retourné. Je dis, quoi ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Surtout que quelques semaines avant, elle avait été en tête du défilé de la Gay Pride. Et donc j'ai dit, ah non Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle vient ? Elle vient là juste pour se montrer, etc. Enfin, j'étais vraiment très, très irritée dans mon cœur. Et puis elle était juste devant moi en plus, assise juste devant moi. Et puis d'un seul coup, dans mon cœur, j'ai cette pensée du Seigneur qui me vient. Et pourquoi tu ne prierais pas pour elle ? Waouh, ça m'a... Donc, ça m'a vraiment remise en question, sur le moment, hein, sur le moment même. Et puis j'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, bah oui Seigneur, ok. Et puis finalement, au fur et à mesure que le temps passait dans cette rencontre, mes sentiments ont changé. Et puis... Et comme elle venait pour se montrer, elle était toujours très pressée de partir après parce qu'elle avait toujours des rendez-vous ailleurs. Elle est très vite partie après, donc j'ai pas pu aller la voir. Et puis, avec le groupe d'intercession, justement, je leur ai partagé ça et puis on a commencé à prier pour elle. Quelques temps après, il y avait des élections justement pour les députés et puis elle se présentait pour être un nouveau député. Et donc on priait pour elle. Et puis, il y avait aussi, dans cette période, on avait invité le maire et tout ça, pour, comment dire, c'était Yannick qui devenait pasteur de l'église, enfin bref, donc on avait fait une rencontre spéciale. Donc on avait invité le maire, et puis on a invité Roselyne Bachelot. Et alors je disais, on avait prié pour ça, je disais, il faut absolument que je puisse parler avec elle. Et donc je faisais la louange et puis je la vois qui vient. Je lui dis, oh, Seigneur, pourvu qu'elle parte pas après tout de suite, pourvu qu'elle parte pas tout de suite, que je puisse l'attraper et lui parler. Et donc je suis, dès que ça a été terminé, j'ai posé ma guitare et je me suis précipitée sur elle. Et puis je lui ai dit, ben vous savez, Madame Bachelot, je vous aimais pas. Oh. Voyez-vous sa tête. Je vous aimais pas. Mais j'ai prié pour vous et maintenant je vous aime bien. et on prie pour vous dans notre groupe, etc. Donc voilà, je lui ai dit franchement, comme ça. Ah bah, je ne sais plus ce qu'elle a dit, mais enfin, elle était. Ah, après, elle souriait, quoi. Mais bon, ça a été plus loin parce qu'après, avec le groupe d'intercession, on est même allé dans un meeting qu'elle faisait pour se faire élire, là. On s'est dit quand même, on prie pour elle, donc il faut quand même aller écouter, puis la voir, quoi. Et donc je lui ai rappelé, je suis allée la voir à la fin d'une rencontre comme ça, et je lui ai rappelé qu'on priait pour elle. Et depuis, ben bon, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, hein, mais je ne sais pas, j'aime bien. Donc Dieu, il faut laisser Dieu transformer notre cœur et pour qu'on puisse les voir avec, voir les gens avec le regard de Dieu. Alors, quels outils pour intercéder ? Il y en a plein. Intercéder, c'est argumenter, appuyer, apporter des éléments comme le disait Pharaon à Moïse, fléchissez le cœur de l'Éternel par vos prières. Alors vous pouvez revoir la palette de, je ne sais pas si vous vous rappelez, la palette de l'intercesseur que... Ah non. Vous pouvez revoir la palette de l'intercesseur que Karel avait donné. D'ailleurs, c'est, vous pouvez le voir sur la main qui est sur le poteau, là. Donc, vous pouvez revoir la palette de l'intercesseur que nous avait donné Karel dans un message sur la prière il y a quelques mois. Donc, intercéder, c'est... aussi louer, adorer, prophétiser, proclamer, s'identifier, supplier, rappeler les promesses de Dieu. Au groupe Levons-nous, la dernière fois, on avait parlé du fait de l'importance de se rappeler les promesses de Dieu et puis aussi, mais aussi nous, de lui rappeler ses promesses. Vous savez qu'on peut faire changer les choses. On peut faire changer Dieu dans ce qu'il a dans les projets qu'il a fait. Ah, ben si, tu vas voir. Ben, on l'a lu tout à l'heure avec Sodome. Non, Sodome et Gomorre, il n'a pas changé parce que voilà. Mais avec Moïse, il a pas détruit le peuple. Donc, avec Moïse, Dieu a détourné sa colère et il n'a pas fait ce qu'il avait prévu. Et d'ailleurs, des fois, je me demande, il est un peu coquin, des fois, Dieu. Je ne sais pas si le terme est bien, coquin, mais... j'ai l'impression que des fois, il prévoit de voilà, je vais détruire telle ville, je vais faire ceci et cela. Et je pense que des fois, il nous met à l'épreuve pour voir... l'état de notre cœur. Je crois qu'il a des raisons de se mettre en colère. Attends, minute. Je crois qu'il a des raisons de se mettre en colère, mais que, comme il veut qu'on soit participant aussi avec lui, il attend de voir qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont réagir. Et donc, oui, Jonas, à Ninive, c'était des projets de destruction sur la ville. Mais Dieu s'attendait bien à la repentance du peuple, parce qu'il connaît tout d'avance. Donc il le sait. Mais il fallait que Jonas y aille quand même, pour dire, attention, vous allez vous faire punir par Dieu. Mais malheureusement, Jonas pensait plus à sa renommée qu'au salut des Ninivites. Alors, voilà. Jonas n'avait pas un cœur vraiment aimant pour les gens de Ninive. Non, parce que si tu détruis pas Ninive, moi, qu'est-ce que j'ai l'air de quoi? Je leur ai dit qu'ils allaient être détruits. J'ai l'air de quoi? Donc il faut beaucoup d'humilité pour être dans l'intercession aussi. Voilà, souvent les menaces de l'Éternel sont faites pour réveiller les consciences. C'est un peu comme nous quand on dit à nos enfants, si t'es pas ça, je vais te donner une fessée. Bon, on n'a plus le droit, mais bon. Donc c'est pour réveiller les consciences et que les gens se repentent. Dans le livre d'Amos, j'ai trouvé une intercession un peu qui sort de l'ordinaire. Dans le livre d'Amos, au chapitre 7, Amos intercède dans une vision. Je vous lis le texte. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé une vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser, c'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, « Seigneur éternel, pardonne donc, comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. » L'Éternel l'a regretté. « Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. » Le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé cette vision. Le Seigneur proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévoré le territoire. J'ai dit, Seigneur, éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur. Il y a quelques années, frère André de Portes Ouvertes avait écrit un livre qui s'appelle « Et Dieu changea ses plans ». Donc, si vous, je ne sais pas s'il existe encore, mais vous pouvez le... Comment ? Donc voilà, ça s'appelle « Et Dieu changea ses plans ». Donc, si tu veux, le bouquin de frère André. Alors, l'intercesseur, c'est, il doit avoir de la persévérance et de la ténacité. Dans Ésaïe 62, verset 6, « Sur tes murs, on connaît bien le passage, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, ne vous accordez aucun répit, point de repos pour vous. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. » D'autres versions disent « Vous qui faites se souvenir l'Éternel, ne gardez pas le silence. Ne lui laissez pas de repos. Vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, point de repos. Ne lui donnez aucun de repos. » Aucun repos. C'est vrai qu'on connaît bien ce passage, j'ai placé des gardes qui ne se tairont jamais, etc. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est cette phrase « Ne vous accordez aucun répit, ne gardez pas le silence, ne lui laissez pas de repos. » Et même, nous, on ne doit pas s'accorder de répit, mais on ne doit pas non plus laisser de répit à Dieu. Ça veut dire qu'on doit l'embêter jusqu'à ce qu'il réponde à nos prières. On doit persévérer, on doit être tenace dans notre prière. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il faut se rappeler les promesses de Dieu et lui rappeler aussi ce qu'il nous a dit. On doit être dans une attente active, dire on ne doit pas attendre que ça nous tombe sur la tête, mais on doit toujours être dans l'action. Ça fait partie de l'intercession. Il ne faut pas abandonner trop vite nos sujets de prière. Dans Luc 12, 35, il est dit « Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. » C'est-à-dire qu'on doit toujours être sur le qui-vive, être toujours prêt, toujours dans l'action pour prier. L'intercesseur se tient entre Dieu et les hommes, entre Dieu et une ville, entre Dieu et un pays, pour plaider. Alors comment intercéder efficacement sans une relation de proximité et d'intimité avec Dieu ? D'abord, il faut travailler avec le Saint-Esprit aussi. Les guetteurs intercesseurs ne parlent pas toujours. On n'est pas toujours en train de parler, de prier. Ils écoutent. Ils guettent, ils entendent, ils reçoivent ses pensées, ses visions, ses paroles. Des fois, on parle beaucoup plus vite, on parle trop vite, avant d'écouter ce que Dieu veut d'abord nous dire. Ensuite, après, ils parlent, ils transmettent. C'est une intercession prophétique. Ils prient ses sujets, ils proclament sa parole, ses décrets. Ils voient les choses avant qu'elles n'arrivent. Ça, c'est le discernement des temps, un peu comme la tribu d'Issacar, dont je parlais tout à l'heure. Ils s'humilient et se repentent à la place. Ils peuvent se repentir à la place des gens, à la place d'une ville, à la place d'un pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Mais souvent, ce n'est pas le peuple entier qui s'humilie et qui prie, c'est ceux qui sont interpellés. Et donc, ils sont en relation directe avec le ciel. Et le Saint-Esprit leur vient en aide. On a reçu une parole à la maison de prière, c'était en 2015. Je vous la lis. Lorsque vous priez, vous êtes trop terre à terre et pas assez dans le ciel. Vous priez d'en bas et non d'en haut, où se trouve mon trône. Le fait de prier d'en bas vous éloigne de mon trône. Vous mettez de fait une distance trop grande envers vous et moi. Vous regardez en haut sans y être, sans pouvoir voir si je vais vous exaucer, sans connaître mes pensées, sans pouvoir négocier avec moi. Vous êtes comme un avocat, c'est-à-dire entre la personne, la ville, le pays, la situation et moi. Venez en haut, en esprit, devant mon trône, comme si vous aviez à plaider en face à face. Amenez aussi avec vous en esprit la personne, la ville, le pays, la situation devant moi. Ça, c'est une technique de prière. Amenez avec moi, avec vous, en esprit, la personne, la ville, le pays, la situation. Sur mon trône, j'attendrai votre plaidoyer. Arrachez-moi l'exaucement, la bénédiction. Insistez, sollicitez-moi avec force et conviction. N'ayez pas peur d'argumenter avec moi, d'exprimer votre désaccord. Ça aussi, on peut le faire des fois. Exprimer notre désaccord, bah, c'est un peu ce que faisait Abraham. Hein. Faites votre plaidoyer avec force. Il arrivera que je vous exauce, non à cause des personnes ou des situations pour lesquelles vous plaidez, mais à cause de vous. Oui, je souhaite vous exaucer, par amour pour vous. C'est moins vos mots que votre attitude qui compte. Montez, montez en esprit jusqu'au ciel, afin d'être des intercesseurs, des médiateurs. Ne restez pas à prier sur la terre. Dieu veut nous entraîner à aller dans la profondeur. Bon, c'est un petit peu bizarre de dire dans la profondeur alors qu'il nous demande de monter, mais c'est la profondeur de notre cœur. Dieu veut nous entraîner à aller dans la profondeur, mais il n'a pas la maîtrise de notre motivation. Ah, il n'a pas la maîtrise de notre motivation. Est-ce que nous sommes vraiment motivés? Notre intercession n'est efficace que si nous prions selon son cœur, si nous montons dans les lieux célestes jusqu'à son trône. Alors tout ça, ça nous amène, on va arriver à l'intercession à la maison de prière. Car il nous avait dit que l'adoration, c'est un style de vie, vous vous rappelez ? Je dirais que l'intercession fait partie intégrante de ce style de vie. Comme je disais tout à l'heure, je dois aimer Dieu et le sujet de mon intercession. Si j'aime ma ville, je dois m'intéresser à elle, prendre de ses nouvelles. Est-ce que vous allez de temps en temps prendre des nouvelles de votre ville ? Ben, pas trop. Si je veux prier pour quelqu'un, pour ma famille, il faut que je sache si elle a des problèmes ou pas. Enfin, donc, c'est pareil pour ma ville. Si je veux prier pour ma ville, si j'aime la ville dans laquelle Dieu m'a placé, je dois m'intéresser à elle, prendre de ses nouvelles. Bon, par exemple, on s'est mis à prier pour le SCO pour qu'il reste en Ligue 1. Ben, moi, tous les dimanches, je regarde si le SCO a gagné. Alors, des fois, il perd, mais l'essentiel, c'est nous, ce qu'on demande, c'est qu'il reste en Ligue 1 pour qu'on soit connu. Donc on s'intéresse. On s'intéresse au sujet de notre prière. Il faut voir ses besoins, ses problèmes, le plus souvent possible. Bon, je disais que j'avais prié le lundi après le Nouvel An, ou avant le Nouvel An. Le lundi avant le Nouvel An. J'étais venue toute seule à la maison de prière, et puis je me suis mise à prier pour qu'il n'y ait pas de voiture brûlée à Angers. Et apparemment, en tout cas, il n'y en a pas eu à mon plaisir. C'est mon plaisir. Hein. Alors qu'il y en a plein d'habitude, des voitures qui brûlent. Il paraît qu'il y en a eu une ou deux à la roseraie, mais voilà, à la roseraie, une ou deux, mais pas beaucoup. Hein. Donc, je dis merci Seigneur. D'habitude, il y en a plein. Enfin, en tout cas, il y en a beaucoup plus. Et cette fois-là, voilà, le Seigneur avait entendu ma prière et... Et donc je suis allée voir, j'ai pas vu qu'il y avait eu des, c'était pas écrit sur les nouvelles, mais on m'a dit après qu'il y en avait un peu à la roseraie, enfin très très peu par rapport aux autres années. Donc voilà, il faut prendre des nouvelles, puis prier pour que les choses mauvaises ne se passent pas. De même pour mon pays, pour Israël, pour les chrétiens persécutés, me tenir informé de ce qui se passe. Est-ce que vous vous tenez informé, par exemple, de ce qui se passe pour les chrétiens persécutés? Vous savez que vous pouvez avoir un... Moi, je reçois le fil rouge de Portes Ouvertes, donc je reçois régulièrement des nouvelles des chrétiens persécutés, puis il y a un autre site aussi, Info Chrétienne, qui en donne de temps en temps. Donc, si je prie pour les chrétiens persécutés, il faut que je sache ce qui se passe. Individuellement, même, je ne suis pas obligée d'attendre d'être à la maison de prière pour prier. Hein. Individuellement, chaque jour, je peux prier quand j'entends des nouvelles. Je peux, même si c'est courtement, je n'ai pas besoin de faire de longues prières. Des fois, j'ouvre mon ordinateur, je vois, il se passe ça dans tel pays, ben, je prie. Je ne prie pas des heures, mais je prie, quoi. Donc, voilà, si on veut vraiment intercéder, être intercesseur, il faut pas seulement une fois de temps en temps, mais ça doit être notre style de vie aussi, intercéder dès qu'on le peut. Dans la maison de prière, on apprend à intercéder ensemble, à approfondir notre écoute individuelle et communautaire, à entendre la voix de Dieu, à prophétiser, à proclamer, à travailler avec le Saint-Esprit en parlant, en chantant en langue et aussi avec le jeûne. Bon, ça, on n'en parle pas beaucoup du jeûne, mais il faudrait qu'on le fasse un peu plus souvent. La maison de prière est un lieu de gouvernement. Nous avons l'autorité pour faire bouger les choses, même dans des endroits que nous n'imaginons pas. Nous avons l'autorité pour lier et délier, nous dit la parole, pour ordonner. Encore un exemple, toujours de la maison de prière. Au cours des attentats en 2015, on a prié pour ça, à la maison de prière. Et on a prié pour Angers, pour qu'il n'y ait rien qui se passe. Et puis on a reçu ça, Ésaïe 37, 32, 33. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de trait, il ne lui présentera point de bouclier, il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David. Non, c'est David, mon serviteur. Mais je dis à cause de mes serviteurs. À cause de vous. Et donc, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'attentat, il n'y a pas eu de choses dans notre ville d'Angers. On a prié et proclamé cette parole sur notre ville. On ne s'est pas contenté de la recevoir, parce qu'on l'a reçue comme ça, vraiment par hasard avec un grand D. Donc, on a prié à plusieurs reprises et proclamé cette parole sur notre ville. De même, au début des Gilets jaunes, on a prié pour que ça se passe dans le calme. Et à chaque fois, ça s'est passé dans le calme, sauf une fois, c'est parce qu'ils avaient décidé de réunir toute la région à Angers. Et ce jour-là, il y a eu un peu de dégâts. Mais en général, il n'y a pas eu de dégâts des Gilets jaunes. Il y a Hervé Guillois qui avait donné cette parole en 2014. Vous allez prier tellement efficacement que vous allez faire bouger le bras de Dieu. Et je pense que ça va être puissant. Ça ne va pas être des « bénis-moi, bénis-moi ». Mais vraiment orienté vers le cœur de Dieu, sur ce qu'il a sur son cœur, sur le moment. Ça va être pour la région, mais aussi extra-local, sur des nations et même des présidents, des gens qui sont des clés. C'est fort hein, comme parole. Vous aurez beaucoup à prier pour des gens clés, donc des gens clés, c'est-à-dire des gens qui sont importants, qui ont des responsabilités, afin que Dieu puisse placer les gens qui le veut. C'est très important pour les temps de perturbation dans lesquels nous allons rentrer, qui vont être de plus en plus forts, mais la puissance de Dieu va être de plus en plus forte également. Et puis Dan Lee m'avait donné aussi quelques paroles, il disait que c'est une saison où on va commencer à voir sur trois niveaux, personnel, local, la ville, et la nation. Et on va remuer la prière sur ces lieux. Donc ça confirmait, je dirais, 5 ans après, ce que Hervé Guillois avait dit. On va remuer la prière sur ces lieux. L'intercession est un combat spirituel Surtout quand on prie pour les villes ou le pays. Comme dit Paul dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les dominations, les autorités, les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Prenez donc toutes les armes. Bon, vous connaissez le passage. Ce qui est important, c'est que on ne prie pas contre les personnes. Ce n'est pas une bonne manière de prier. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien, ou qu'on n'aime pas, ou qui fait des choses qui ne sont pas bien, surtout des présidents ou des gens justement qui sont en situation d'autorité, on ne prie pas contre les personnes. On prie. Paul dit à Timothée de prier pour les rois, les gouvernants. Il faut prier pour eux, pour que Dieu change leur cœur, pour que Dieu les visite, pour que Dieu les bénisse. Par contre, nous prions contre les œuvres du diable, qui les manipule. C'est complètement différent. Il faut faire attention à notre façon de prier. On n'intercède pas à la légère, les mains dans les poches et une fleur à la bouche. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand on prie pour la personne, à côté, on prie contre les autorités maléfiques. Et là, c'est un combat spirituel. Et là, il faut que justement nous ayons toutes les armes de Dieu pour prier. Oui, si tu veux. Attends, je finis juste ma phrase là. Donc, nos armes sont spirituelles. Et je rappelle les combattants de David, les qualités des combattants de David qui étaient armés, qui étaient prêts au combat. Donc il faut toujours être prêt quand on est intercesseur. Il faut toujours être prêt parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, c'est avec Néhémie, il était dans un pays, il avait été, comment dire, il avait été emmené prisonnier. Et puis, dans ce pays, il servait le roi à table. Et puis, il était triste. Et le roi lui a dit... Il était triste parce qu'il venait d'apprendre que ça se passait mal en Israël. Enfin, voilà, en Israël. Donc, il était triste. Et puis, le roi lui dit, « Mais qu'est-ce que t'as, t'es triste ?» Et puis, il ne savait pas quoi lui répondre. Et il a prié, mais il a prié très courtement. Hein, vous relirez dans le livre de Néhémie. Donc, quelquefois, on n'a pas besoin de faire des longues prières. Il suffit d'avoir une conviction, d'être vraiment toujours prêt, je dirais toujours prêt, et de prier selon le cœur de Dieu. Oui, tu voulais dire ? Oui, ça peut aussi. Hein. Il faut être prêt, il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli rempli du Saint-Esprit. Mais bon, prier pour des gens qui sont possédés, c'est un autre domaine, quoi. Mais c'était plutôt par rapport à des personnes. De prier pour des personnes. Mais là, c'est, on ne prie pas pour des personnes. À la maison de prière, d'ailleurs, on ne prie, en général, on ne prie pas pour les personnes.
Non, mais même sans les avoir à côté de soi, prier pour des situations, des gens, ou aller
Oui, bon, c'est peut-être un peu exagéré. Les enseignements des uns et des autres ne sont pas toujours pareils. On est, on peut prier, bah, surtout s'ils ne sont pas à côté de toi, ils ne vont pas te faire mal. Mais c'est un autre problème de prier pour la délivrance de quelqu'un, c'est un autre sujet. À la maison de prière, justement, je disais, on s'occupe principalement des affaires du royaume. Ce n'est pas pour les personnes, même si le Seigneur peut nous conduire à prier pour les personnes. Ça arrive à la maison de prière. Parce que la maison de prière, c'est aussi un lieu de guérison. C'est aussi un lieu de restauration. Et des fois, ça se fait tout seul sans qu'on dirige les choses. Et même des personnes peuvent être guéries ou restaurées simplement dans la louange et l'adoration. Donc, ce n'est pas le but de prier pour les personnes. Alors, quand je dis personnes, ça veut dire des personnes de l'Église qui vont venir. Ah, tu peux prier pour moi parce que ça ne va pas. Ou des choses comme ça. On prie pour des personnes, on prie pour des dirigeants, on prie pour des rois. Voilà. C'est le royaume, c'est les affaires du royaume. On ne prie même pas à la maison de prière, on ne prie pas pour l'église locale, même si on l'a fait. Mais ce n'est pas le but. Mais le Seigneur peut nous conduire à le faire, pour des situations particulières. Le but principal dans l'intercession à la maison de prière, c'est l'avancement du royaume de Dieu dans la ville, la région, le pays, le monde, Israël. Et prier pour Israël est important. On ne l'a pas fait souvent ces derniers temps et j'aimerais bien qu'on refasse, mais bon. Parce que prier pour Israël, c'est important, de lui dépend notre paix, de ce pays dépend aussi notre paix. Donc Dieu cherche des hommes, des femmes, disposés à lui prêter main forte. C'est ce qu'on a lu hein, dans les divers passages. Personne ne me vient en aide. Dieu veut qu'on participe. Il veut agir avec nous dans l'intercession. Il veut que nous fassions notre part. Il pourrait faire les choses sans nous, mais il veut les faire avec nous. Je cherche quelqu'un qui me viendra en aide. Est-ce qu'on est de ceux-là? Est-ce qu'on veut être de ceux-là? Pratiquement, l'intercession communautaire demande un peu d'organisation. Outre écouter Dieu, il faut apprendre à s'écouter les uns les autres. Ça, c'est aussi dans une réunion d'intercession autre qu'à la maison de prière. Mais quand on se réunit pour prier, pour intercéder, il faut apprendre à s'écouter les uns les autres. Alors, je ne sais pas si je vous les ai déjà dit, mais je suis devenue un peu allergique aux réunions de prière classiques où on vient avec une liste de prières et puis il y a quelqu'un qui commence à prier et puis il a fait tous les sujets. Puis après, nous, on arrive derrière, on dit « Ah, on prie pourquoi ?» Ce que j'aime, c'est que quand on prend un sujet et on l'épuise, c'est-à-dire que chacun peut dire sa conviction, ce qui est sur son cœur par rapport à ce sujet, apporter sa pierre, apporter sa pensée. Et puis ça peut être une pensée prophétique, ça peut être plein de choses. Donc on reste sur un sujet, on ne saute pas d'un sujet à l'autre, mais chacun peut apporter sa contribution sur le sujet qui est devant nous. Mais ça peut être aussi un moment de prière, tous ensemble. J'aime bien, j'appelle ça la prière coréenne. Les Coréens, eux, ils prient tous ensemble. Chacun prie individuellement. De toute façon, que vous priez individuellement ou en groupe, Dieu entend toutes les prières. Si quelqu'un à la maison de prière reçoit une pensée prophétique, on peut prier dessus, proclamer, se l'approprier. Ben voilà. On ne reçoit pas seulement une pensée prophétique comme ça, puis dire « bon, ben ok, merci Seigneur, puis on ne fait rien ». Non, souvent on a quelque chose à faire par rapport à ce qu'on reçoit, par rapport aux pensées, par rapport aux paroles de la Bible. Hein, comme je le disais tout à l'heure, on avait reçu des passages précis. Donc on peut prier sur ce qu'on reçoit. Je dirais même que quelquefois on peut prier sur les chants qu'on est en train de chanter. Il y a des paroles qui sont tellement profondes, je me dis... On peut prier sur des champs, reprendre les paroles, les proclamer. Donc ce n'est pas obligatoire de venir avec une dizaine de sujets. Si je vous dis, je vous conseille de prendre des nouvelles de votre ville, de pays, etc. On ne va pas prier pour tous les sujets, hein, mais c'est l'actualité urgente, on va dire. Et puis, on peut appuyer notre prière par des gestes prophétiques, des danses, des chants, etc., etc. Alors bien sûr, là-haut, dans la petite pièce là-haut, on a du mal à danser, hein, mais on attend que le Seigneur nous donne un lieu plus grand. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous sur l'intercession. On aurait pu dire plein de choses, mais je vais m'arrêter là. Et donc maintenant, on va faire deux exercices pratiques. J'aurais bien aimé que Karel soit là pour nous emmener dans son adoration, que j'aime bien, mais il n'est pas là. Donc on va juste prendre un ou deux chants pour entrer dans la louange et l'adoration. Et puis ensuite, on va prendre deux temps de prière. Le premier temps, on va se partager en deux, ben c'est bien, l'un d'un côté, l'un de l'autre. Et on va faire ce que j'appelle la prière électrique. Vous ne connaissez pas ça ? Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, mais en tout cas, il y a quelques années déjà. C'est pour donner à chacun l'occasion de prier. Donc, on se tient la main. Et puis, vous savez, comme le courant passe, je prie, je dis deux phrases, et pouf, je serre la main de mon voisin, c'est le courant qui passe au voisin à prier. Et comme ça, chacun peut prier sur le sujet. Et puis, la deuxième prière sera plutôt du style coréen. On prendra un sujet et vous allez vous lever, vous allez marcher et vous allez tous prier en même temps sur le même sujet. Vous pourrez aller, voilà, vous pouvez chanter même, enfin voilà, vous pourrez faire ce que vous voulez en priant pour le sujet qui sera proposé, même si je n'ai pas eu beaucoup de temps de préparer le sujet. Voilà, donc je vais arrêter là pour ce soir et puis on va se mettre en position de louange et d'adoration. J'espère que je vais savoir.